le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, changer l'état des choses dans le domaine de la justice, bouger les lignes afin que la justice connaisse des avancées significatives vers son redressement, c'est toute l'expression de la volonté politique et les dynamismes qui ont animé les 300 participants aux états généraux de la justice. Travaux qui se sont tenus du 27 avril au 2 mai dernier à Kinshasa. Défi et enjeu de ces assises dans quelques instants avec le professeur Raphaël Nyabirungu. L'actualité, c'est aussi le déferlement des réfugiés burundais sur le sol congolais de la plaine de Ruzizi. Selon le HCR, il serait à ce jour environ 4000 à avoir traversé la frontière pour demander le droit d'asile auprès de cette agence des Nations Unies. La porte-parole du HCR en RDC nous en dira plus tout à l'heure. Toujours dans le domaine des réfugiés, 5,5 millions de dollars américains, c'est le montant que le PAM consacre depuis quelques mois à l'assistance alimentaire de plus de 100 000 réfugiés centrafricains qui ont trouvé asile dans la province de l'Équateur. Le cash direct et le bon des valeurs sont les modalités mises en œuvre pour cette assistance. Maguen s'entretient avec le chargé de communication du PAM RDC que vous allez suivre dans quelques minutes.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. L'actualité de cette semaine qui s'achève est dominée par la tenue du 27 avril au 2 mai dernier à Kinshasa des états généraux de la justice. En attendant les recommandations de ce forum national, le professeur Raphaël Nyabirungu, modérateur et porte-parole de ces assises, a été l'invité à la conférence des Nations Unies le mercredi dernier. Il est revenu sur les enjeux et les défis de ce forum. Jean-Pierre Elali Coco pour le reportage.
Devant un parterre de journalistes, le professeur Nyabirungu a d'emblée donné la mission assignée à ses assises.
Il s'agit d'une manifestation de la volonté politique de changer l'état des choses dans le domaine de justice, de bouger les lignes afin que la justice connaisse des avancées significatives sur la voie de son redressement.
Faire bouger les lignes, c'est parce que l'image que l'opinion s'est fait de la justice en République démocratique du Congo, cette image donc est peu reluisante. Une image qui renvoie à un cadavre sur lequel il faut faire l'autopsie.
Et la question lancinante, récurrente, se pose. Avons-nous encore une justice dans ce pays? Une justice qui tranche les litiges au nom de la loi et de la vérité. Une justice qui protège les faibles contre les plus forts. Une justice indépendante des autres pouvoirs exécutifs, législatifs, mais aussi des médias. Indépendante de la province, de l'ethnie ou de la tribu, indépendante de l'argent. Certaines personnes pensent que cette justice-là est morte et parlent même d'autopsie. Cette opération faite sur les cadavres et qui n'a jamais ressuscité personne.
Paradoxalement, les autorités congolaises voient les choses autrement. La justice congolaise existe, mais elle ressemble à un malade dont il faut faire les diagnostics, estime le professeur Nyabirungu, un diagnostic qui nécessite une thérapie.
Mais les états généraux de la justice répondent à l'initiative de nos responsables politiques, qui croient que la justice existe, qu'elle est certes malade, mais que son cas n'est pas désespéré. Voilà pourquoi, à la place de l'autopsie, il parle de diagnostic. Il s'agit d'un acte à poser sur un corps vivant, mais qui peut vivre mieux.
Maintenant, quels sont les enjeux et les défis des états généraux de la justice? Écoutez encore une fois le modérateur de ces assises.
C'est pourquoi les états généraux veulent être l'instance d'une réflexion approfondie, consacrée à quelques thèmes qui ont été identifiés comme autant de pistes à explorer et à emprunter pour évoluer vers une justice juste, indépendante, impartiale, protectrice de l'individu, des libertés fondamentales et des institutions.
Notez que les états généraux de la justice se sont clôturés hier samedi avec un chapelet des recommandations. Des recommandations qui, une fois traduites en actes, peuvent redorer l'image ternie de la justice congolaise. Mais entre la théorie et la pratique, il y a toujours un pas à franchir.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le programme alimentaire PAM met la main à la pâte pour venir en aide à plus de 100 000 réfugiés centrafricains dans la province de l'Équateur. Le cash direct, le bon des valeurs sont les modalités mises en œuvre essentiellement dans trois camps du Nord Ubangi et ce, à la satisfaction des bénéficiaires. Claude Kalinga, chargé de communication au PAM, parle de cette assistance et aussi des difficultés inhérentes à ces genres d'opérations. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Claude Kalinga, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à ces studios pour nous parler justement de l'apport du PAM dans la prise en charge des réfugiés centrafricains présents dans la province de l'Équateur. D'abord, la première question, à combien estimez-vous le nombre de ces réfugiés?
Bon, nous estimons environ 100 000 réfugiés au jour d'aujourd'hui. Donc, à 100 000, parce que les réfugiés continuent à traverser, à arriver en grand nombre dans la partie nord, donc en Équateur.
Et où est-ce qu'ils sont localisés précisément?
Bon, ils sont localisés dans quatre camps. Il y a le camp de Boyabou à Libengue, le camp de Mole à Zongo, le camp d'Inke à Agbadolité. Et maintenant, il y a un quatrième camp, le camp de Bossobolo, qui venait d'ouvrir ses portes dans la province de l'Équateur.
Voilà. En février 2014, une mission d'évaluation conjointe PAM-ACR s'est rendue sur place et a recommandé la distribution en cash direct et en bons de valeur pour assister les réfugiés centrafricains. Quelle est la différence entre ces deux modalités d'achat de vivres, Claude?
Nous avons le cash, c'est-à-dire que nous donnons aux réfugiés de l'argent. Et nous avons également ce que nous appelons en anglais le voucher, c'est un bon d'achat alimentaire. De son temps coupon qui a une valeur monétaire. Donc on donne aux réfugiés ces documents et avec lesquels ils se présentent devant un commerçant pour recevoir en retour des vivres.
Alors justement, combien reçoit alors chaque réfugié et pour combien de temps?
Ça dépend d'un endroit, d'un site, d'un camp à un autre. On fait une enquête, une évaluation sur le terrain pour voir le coût, estimer le coût pour qu'une personne, qu'un bénéficiaire arrive à bien manger pendant 15 ou 30 jours. Dans le camp de Boyabou, nous avons estimé à peu près par personne à $22 américains, mais pendant que dans d'autres camps, c'est à peu près $15. Donc avec ces montants, une personne peut valablement manger, donc acheter le bien, les vivres de son choix et manger pendant un mois.
Quel est le nombre de bénéficiaires en général dans tous les trois camps?
Donc depuis le début des opérations, le début de l'assistance en juin 2014 jusqu'en avril 2015, donc nous avons assisté environ 90 000 réfugiés pour un montant global de plus de, disons, de 5,5 millions de dollars américains.
Quand est-ce que le PAM a commencé ses opérations exactement?
Bon, la distribution de cash a commencé au mois de juin 2014 et c'est au mois d'octobre 2014 que nous avons commencé à distribuer le bon, le coupon alimentaire.
Comment se passent ces opérations actuellement dans les trois camps que vous avez cités, Mole, Inke, et Boyabou et peut-être aussi à Bossobolo? Et quelle évaluation faites-vous après ces quelques mois d'opération?
Bon, en tout cas, tout se passe très bien. Dans les trois premiers camps, à l'exception de Sobolo, où nous ne distribuons que des vivres pour le moment. Donc c'est une assistance alimentaire directe que nous donnons aux réfugiés à travers notre partenaire ADS qui est sur le terrain. Donc pour ce dernier camp, ce nouveau camp de Sobolo, nous avons assisté près de 3500 bénéficiaires dans ces nouveaux camps.
Okay.
Donc alors que pour les autres camps, c'était soit des vivres, disons soit de la monnaie, l'argent en espèces, à travers notre partenaire ADES, soit le bon ou le coupon alimentaire.
Et alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur place?
Bon, en tout cas, il y a plusieurs difficultés, notamment la disponibilité des ressources. Mmh. Et là, nous sommes en train de faire de plaidoyer auprès des donateurs pour nous assister davantage, nous donner davantage de moyens afin que nous arrivions à assister à ces réfugiés qui continuent à affluer dans la province de l'Équateur. Bon, nous avons également le problème de transfert. Vous savez que dans cette partie du pays, il n'y a pas de banque. Donc, le PAM doit recourir au service de certaines agences de transfert, comme Soficom notamment. Donc, s'il y avait facilement de banques sur le terrain, ça aurait été très facile. Mais là, nous recourons à d'autres voies pour pouvoir assister ces réfugiés.
Il n'y a pas que de réfugiés centrafricains, Claude. Comment le PAM envisage-t-il étendre ses opérations vers d'autres réfugiés angolais et même mais Burundais actuellement, est-ce qu'il y a aussi des actions de ces côtés-là?
Oui, c'est depuis très très longtemps, dans le cadre de son intervention prolongée de secours, de redressement que le PAM assistait des réfugiés, depuis bien longtemps, avant même l'arrivée des réfugiés centrafricains. Donc, on les assiste, ils sont par-ci par-là à travers le pays, et le PAM leur apporte de l'assistance alimentaire. Donc, ils font partie de notre programme, donc de notre projet, donc ils sont bel et bien assistés.
Et en ce qui concerne les bons d'achat à Pankor, donc ça se limite à l'Équateur, tout simplement?
Ce projet a également débuté dans la partie Est, c'est-à-dire dans la Nord Kivu notamment. C'est aux déplacés en priorité que nous avons pu distribuer. Donc, pour les réfugiés, ils sont en train de continuer à recevoir des vivres comme normalement. Donc, cette modalité est en cours d'application. On est en train de l'étendre parce que ça ne date pas de très longtemps que le PAM est en train de changer les modalités de distribution de son assistance alimentaire.
Voilà. Nous venons de terminer notre entretien. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions Claude Kalinga, qui est chargé des communications au PAM. Il est venu parler, bien sûr, de l'apport du PAM dans la prise en charge des réfugiés centrafricains qui sont présentement dans la province de l'Équateur. Claude, je vous remercie.
Je vous remercie également.
En plus bref, sachez que plus de 2 millions d'enfants congolais seront bientôt protégés chaque année contre la polio grâce à un nouveau vaccin. Un vaccin anti-poliomyélite inactivé. C'est un communiqué de presse conjoint OMS, UNICEF, Gavi qui donne cette information. Un communiqué daté du 28 avril, jour du lancement par le Premier ministre de la cérémonie officielle de l'introduction progressive de ce vaccin. C'était à Mbatana, à plus d'une centaine de kilomètres de Kinshasa, dans la zone sanitaire de Maluku. Le pape François s'adressera à l'Assemblée générale de l'ONU le 25 septembre prochain. Selon la presse du Vatican, le secrétaire général des Nations Unies a rencontré mardi dernier le Saint-Père. Une rencontre au cours de laquelle Ban Ki-moon a exprimé sa gratitude à son interlocuteur qui a accepté de s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies. Revenons à Kinshasa pour parler microcrédit. Du 21 au 22 avril dernier, se sont réunis à Kinshasa des membres de micro, petites et moyennes entreprises agricoles de la filière manioc, des institutions de microfinance et des banques commerciales. Il s'est agi d'un atelier organisé par la FAO en vue de faciliter les liens entre ce partenaire dans le cadre de l'accès au microcrédit. Un atelier à circonscrire dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote de la FAO sur la promotion de la chaîne des valeurs du manioc en RDC. Enfin, c'est le 3 mai, c'est dimanche donc, une journée mondiale consacrée à la liberté de la presse. En marge de cet événement, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, et les hauts commissaires aux droits de l'homme, M. Zaid Rad Al-Hussein, appellent à un journalisme de qualité. Ils le disent dans une déclaration commune et affirment à cet effet qu'un journalisme de qualité permet aux citoyens de prendre des décisions éclairées quant au développement de la société.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le déferlement des réfugiés burundais sur le territoire congolais au sud Kivu se poursuit. Ils étaient déjà jusqu'au milieu de la semaine dernière environ 4000 à demander l'asile selon le bureau de la représentation régionale du HCR-RDC. La porte-parole de cette organisation à Kinshasa, Céline Smith, est notre invitée. Elle s'entretient avec Honoré Misenga Kalala sur cette vague de nouveaux réfugiés burundais. Suivez.
Céline Smith, bonjour.
Bonjour.
Des milliers de nouveaux réfugiés burundais fuyant l'insécurité dans leur pays se déversent sur les territoires congolais depuis le week-end dernier. À combien le ASR estime leur nombre ce jour?
Selon nos équipes qui sont sur le terrain, dans le territoire d'Ouvira et à Fizi également, nous avons environ 4000 demandeurs d'asile burundais qui sont arrivés depuis le début du mois d'avril, qui ont fui le Burundi pour chercher un refuge en RDC. Donc ils arrivent principalement dans le territoire d'Ouvira.
Vous avez une idée sur le nombre des femmes, des enfants?
La majorité des demandeurs d'asile qui arrivent sont effectivement des femmes et des enfants. Donc plus de 56% sont des enfants.
Par quelle voie ils traversent la frontière congolaise?
Alors la majorité arrive dans le territoire d'Uvira, donc ils traversent à cet endroit-là la frontière, ils arrivent à pied. D'autres traversent également le lac un peu plus au sud.
Et ils arrivent dans quelles conditions?
Alors pour l'instant, ils nous disent fuir des craintes de persécution, surtout donc des craintes de violence dans ce contexte préélectoral. Donc ils fuient ça. Il y a, comme je vous le disais, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants qui peuvent arriver affaiblis. Mais pour l'instant, ils fuient des craintes de persécution.
Comment ils sont accueillis par la population locale?
La population locale a été très hospitalière face à l'arrivée de ces demandeurs d'asile. Donc ils ont trouvé refuge, un abri auprès de la population locale, mais également auprès d'anciens réfugiés burundais qui vivent également encore au sud Kivu, qui n'étaient pas rentrés chez eux, qui étaient toujours en RDC. Donc ces familles hébergent pour l'instant ces demandeurs d'asile qui arrivent.
Oui, les anciens réfugiés burundais en RDC de ce côté-là, ils étaient au nombre de combien déjà?
Ils sont environ 10 000. Donc nous avions organisé en 2010 et 2011 un mouvement de rapatriement volontaire des réfugiés burundais qui souhaitaient rentrer chez eux. Plus de 15 000 avaient à l'époque choisi de rentrer, mais un certain nombre étaient encore restés. Donc aujourd'hui, ils sont encore 10 000 à vivre au sud Kivu.
Alors comment se passe maintenant la prise en charge par l'ASR de ces nouveaux arrivants?
Pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est que, ensemble avec le gouvernement congolais, notamment la Commission nationale pour les réfugiés, nous avons renforcé nos équipes sur place, le monitoring de la frontière, mais également le suivi de la situation des personnes qui arrivent. Nous avons également une équipe d'enregistrement qui est partie sur place et une autre équipe qui est en train d'évaluer les besoins des personnes qui arrivent. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants, donc nous essayons de voir surtout quelles sont les personnes aussi qui auraient besoin d'assistance, qui seraient vulnérables, pour voir ensuite quelles solutions apporter. Est-ce que la solution qui sera apportée sera de pouvoir assister ces personnes là où elles se trouvent, ou alors est-ce qu'il faut créer des sites? Donc nos équipes sur place sont en train de travailler avec les autorités pour voir quelle serait la meilleure réponse.
Est-ce que le ICR est confronté à des difficultés particulières par rapport à cette vague, par rapport à la prise en charge des nouveaux venus?
Effectivement, si je peux le dire, une nouvelle opération encore en RDC. Donc cela nécessite de pouvoir déployer rapidement nos équipes sur place. C'est ce que nous avons fait de Bukavu. Nous avons une équipe qui est sur place à Uvira pour essayer de répondre à cette situation.
Quel est le doute de l'ASR par rapport à cette nouvelle situation?
Nous sommes en contact régulier avec les collègues au Burundi, mais également au Rwanda, pour suivre la situation. Comme vous le savez peut-être, l'afflux de réfugiés est beaucoup plus important au Rwanda. Nous sommes déjà à plus de 21 000 réfugiés burundais qui sont arrivés au Rwanda, où nous avons créé un nouveau camp de réfugiés et où nous transférons tous les jours les réfugiés d'un centre de transit qui se situe au niveau de la frontière vers le camp de réfugiés. Nous sommes également en contact avec les collègues au Burundi pour voir comment la situation évolue et nous devons nous préparer à un possible afflux plus important que celui que nous voyons aujourd'hui.
Oui, en dehors de l'importance de l'afflux, vous ne redoutez aucune autre chose? Par exemple, la présence parmi les réfugiés des rebelles, des hommes armés?
C'est des questions effectivement qui sont discutées aussi avec les autorités, la Commission nationale pour les réfugiés. Il est très important de préserver le caractère civil de l'asile, et c'est-à-dire que s'il y a des éléments armés, qu'ils soient séparés de la population réfugiée qui est civile, et c'est effectivement des discussions qui ont lieu avec la CNR qui suit également ces questions-là.
Alors quel est le message du ACR en ce moment ici par rapport à cette nouvelle situation?
Nous sommes sur place, comme je vous le disais, nous suivons la situation tous les jours avec nos équipes sur place. Nous essayons de trouver la meilleure solution pour apporter une assistance à ces personnes et nous sommes préparés à un éventuel afflux plus important.
Céline Smith, merci.
Merci.
Notre nouvelle de province partira du Katanga. Le Fonds central pour les interventions d'urgence, CERF en sigle, vient d'allouer 1,3 million de dollars américains au Katanga pour répondre aux besoins urgents dans le secteur de l'éducation et de la protection dans les territoires des Manono et Mitoaba. N'est-ce pas Jean-Pierre Elali Koko?
C'est bien cela, Nadine. Selon le document publié par OCHA cette semaine, ce financement va améliorer l'accès et le maintien à l'école d'environ 15 000 enfants déplacés, retournés et autochtones de moins de 12 ans dans 50 écoles du territoire de Mitoaba. Nous sommes là dans le domaine de l'éducation. Et parmi les activités prévues, il y a la distribution de fournitures scolaires et matériel récréatif. Il y a aussi le renforcement des capacités pédagogiques et des enseignants. Il faut signaler, Nadine, que le territoire de Mitoaba n'a plus bénéficié pendant plus de 2 ans des financements dans les secteurs de l'éducation. Dans le domaine de la protection, une allocation de 509 000 dollars va cibler plus de 3 000 personnes affectées par les conflits armés, survivantes de violences sexuelles, enfants associés aux forces et groupes armés et enfants non accompagnés dans les territoires de Manono et Mitoaba. Ces financements permettraient aussi d'obtenir des biens essentiels et une assistance psychosociale et médicale aux victimes des violences sexuelles. Enfin, sur le plan humanitaire, OCHA fait état de 5 600 enfants déplacés des villages à Manono et Ankoro dans les territoires de Manono. Ils sont ainsi privés de toute scolarité à la suite de l'incendie de leurs écoles lors des affrontements entre le pygmée Toa et Luba dans ce territoire.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche vient d'un collègue de Goma. Elle porte sur le rôle des surveillances de drones de la MONUSCO, sur l'incursion ou non des troupes rwandaises sur le territoire. Suivez.
C'est Victor Bigatti pour le compte du journal Hebdo de l'Est. Je pose ma question tout droit au major général Bayon. Quel est le rôle de vos avions sans pilote? Car la MONUSCO n'a pas été en mesure de détecter de ces militaires rwandais sur le sol congolais.
Je pense qu'il faut être clair sur cette question en disant que nos avions sans pilote ne peuvent pas tout voir. Ça, je pense que c'est important de le dire. Il ne faut pas non plus imaginer que nous pouvons tout surveiller. Nos appareils sans pilote ont d'abord une mission de protection des civils. C'est la mission d'abord majeure. Ils ont un rôle aussi qui va au-delà des opérations militaires et ils ont été engagés déjà dans des opérations liées à des opérations de police, mais aussi éventuellement à la gestion de situations humanitaires. Alors maintenant, votre question, je pense qu'elle est extrêmement précise, c'est-à-dire qu'elle demande quel est éventuellement l'apport de ces moyens par rapport à la surveillance de vos frontières, donc à la question de l'intégralité de votre territoire. Moi, ce que je voudrais dire à ce stade, on va dire, des investigations, c'est qu'il y a des enquêtes en cours, effectivement, par le mécanisme conjoint de vérification, pour lequel la MONUSCO est partie prenante. La MONUSCO a aussi un certain nombre de moyens humains et des moyens technologiques, dont ses avions sont pilotes, et nous mettons aussi à la disposition, on va dire, des gens qui font ces enquêtes, ces moyens, dans la mesure, effectivement, de leur disponibilité.
Magazine des Nations Unies. Portrait des îles.
Je m'appelle Augustin Bikale Mukundai. Je suis marié et père de 2 enfants. J'ai une formation en gestion du patrimoine culturel, donc un master en développement avec comme spécialité gestion du patrimoine culturel, et cela après avoir obtenu une licence en philosophie politique à l'Université catholique de Kinshasa. Actuellement, je suis administrateur national du programme culture à l'UNESCO. Ça fait pratiquement 2 ans et quelques mois que je suis à ces fonctions. Et chaque jour, je m'occupe de l'identification de besoins et priorités de la République démocratique du Congo dans le domaine de la culture. Et donc mon rôle, c'est d'appuyer la promotion de la culture comme outil de développement, de construction et de la consolidation de la paix. Donc, je mets en œuvre ce programme et réalise le suivi des activités du bureau dans le domaine de la culture. Et aussi, l'une des attributions majeures, c'est la mobilisation de fonds sur la base de priorités du pays, en tenant compte des interventions des autres partenaires dans le domaine. Nous procédons également au renforcement des capacités dans tous les domaines clés de la culture, par des formations afin d'assurer à terme l'autonomie du pays en cadre et la contribution de la culture à la reconstruction et au développement du pays par son intégration dans les plans nationaux de développement. Et donc voilà brièvement c'est qui constitue mes attributions et mon engagement de tous les jours au sein de l'agence UNESCO des Nations Unies. Avant d'être engagé aux Nations Unies, j'ai passé 9 ans comme conservateur des musées. Et donc j'étais conservateur d'art contemporain à l'Institut des musées nationaux, où j'ai beaucoup travaillé non seulement à la section d'art contemporain, mais aussi en tant que responsable du service des numérisations des collections. Mon temps libre, je les passe beaucoup à assister à des activités culturelles. Je peux dire que mon temps libre est le prolongement de mes occupations professionnelles. Et je suis très culture et j'aime beaucoup la musique, les arts plastiques et les arts graphiques aussi. Mais à part ça, il y a aussi le patrimoine culturel qui me passionne, le patrimoine culturel matériel comme immatériel. Et donc, on passe beaucoup de temps à travailler à la promotion de ce patrimoine, non seulement au sein de l'UNESCO, mais aussi au sein d'autres organisations de la société civile. Eh bien, vous vous en doutez bien, je suis aussi un conservateur. Conservateur dans ce sens que j'observe beaucoup ma tradition, j'aime beaucoup ma culture et donc sur le plan gastronomique, la gastronomie congolaise m'intéresse beaucoup. J'aime bien beaucoup manger le foufou, c'est avec le foufou que j'ai grandi, le pondou et puis les poissons salés et tout ce qui peut aller avec. Et donc, mais à part ça, je suis très ouvert aussi à la découverte des cultures des autres et donc je ne me gêne pas de pouvoir tester, de pouvoir manger tout ce qu'on me présente, sauf les lézards. Concernant ce que je peux projeter dans l'avenir, je compte mettre à l'écrit tout ce que j'ai pu accumuler durant toutes ces années d'expérience professionnelle pour les partager et pour susciter au sein de la jeunesse, de tous les créateurs, tous les acteurs culturels, cette dimension de la créativité qui fait transformer les sociétés. Je salue tous les fidèles auditeurs de Radio Okapi, Radio Okapi qui fait un formidable travail, que ce soit au niveau de la consolidation de la paix comme au niveau du développement des expressions culturelles. Tout le monde s'exprime avec toute la liberté possible et je salue aussi particulièrement ma famille qui me suit au nom d'Augustin Vicale et toute la famille Vicale qui me suit en ce moment. Merci.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Notez dans vos agendas, le 8 et le 9 mai de chaque année, les Nations Unies célèbre la journée du souvenir et de la réconciliation en l'honneur de mort de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien la fin de cette émission coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco sous la supervision de Ben Kabamba. Honoré Missenga était en reportage et Nadine Foulantimba vous l'a présenté. Avec le concours et la dextérité technique de Paul Banyanyama, vous pouvez retrouver ce numéro de magazine des Nations Unies sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous.